explorer de nouveaux mondes étranges,
traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Le temps d'un bivouac.
Quand elle part en mer, elle dit qu'elle rentre à la maison. En 1991, elle est devenue la première femme à faire un tour du monde en course à la voile. Après cet exploit, Isabelle Autissier, c'est d'elle dont il s'agit, a consacré une grande part de sa vie à la course au large en solitaire ou en équipage. Et après avoir parcouru les océans à toute allure, s'être laissée griser par la vitesse, enivrée par les victoires, la navigatrice a choisi de ralentir et de prendre le temps de savourer la mer. 3 mois par an, elle prend le large avec à son bord des scientifiques, des sportifs ou encore des écrivains. Cet après-midi, Isabelle Autissier accoste dans notre bivouac. Elle va nous dire comment se déroule la vie lors des courses en solitaire à bord d'un voilier, 3 mois sans toucher terre, et nous raconter les tempêtes, les frayeurs et puis ces moments de plénitude où elle se sent en parfaite harmonie avec l'océan, ces moments qui font qu'elle se sent si bien quand elle prend la mer. Et en fin d'émission, nous retrouverons Nancy Mutz de la série Nu et culotté de France 5, rebaptisée cet été Confinu et culotté. Aujourd'hui, ils nous emmèneront en Corse faire de la luge face à la mer. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission a été préparée par Hugo Struna, réalisée par Marie Casanova et Étienne Bertin, avec à la technique Michel Bézikian. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Vous aurez bientôt de mes nouvelles, mon gaillard.
Bah, j'ai intérêt, t'as intérêt, hein.
Ça fait du bien. Il y a les derniers hélicos qui sont barrés. Et ben, voilà en route, quoi.
L'un de vos nombreux départs en mer, Isabelle Autissier. Là, nous étions en 1996 pour le départ d'un des Vendée Globe auxquels vous avez participé. Alors, ça se prépare longtemps à l'avance, certainement, ces départs. Et puis, il doit y avoir un moment, là. Il y a l'effervescence sur le port. Tout le monde vous encourage, vous acclame. Au début, vous êtes accompagné par d'autres bateaux qui avancent un peu dans votre sillage. Il y a les hélicoptères. Puis, petit à petit, vous êtes de plus en plus seul. Ça doit faire un drôle d'effet.
Alors, ça fait du bien parce que ces jours d'avant le départ, c'est quand même le tournis qui vous saisit, ouais. Parce que tout le monde veut vous voir, vous dire quelque chose, vous faire signer quelque chose. Les préparateurs sont là avec leurs dernières recommandations, la famille, quelqu'un qui bat. Enfin bon, tout ça, c'est assez émouvant, c'est assez stressant. C'est le moment du départ, les 2-3 heures du départ, c'est hyper stressant parce que tout se concentre. Ouais. Et puis en plus, on se dit s'il y a un abruti, passez-moi l'expression, qui se met en travers avec son petit bateau pour faire la photo et que je risque l'avarie alors que ça fait 3 ans que je prépare le truc. Enfin, donc quand ça s'apaise, le soir arrive, tout le monde part petit à petit, puis on se trouve en mer et on se dit voilà, ça fait 2 ans que je bosse pour ce moment-là. Et alors là, voilà, on rentre dans son histoire et c'est vraiment bien.
C'est là que l'aventure commence. C'est une belle aventure qui a commencé pour vous en 1991. Vous êtes devenue à ce moment-là la première femme à faire un tour du monde en course. Alors la course, c'était le Bock Challenge. C'est une course à la voile en solitaire par étapes, réservée au monocoque. Et depuis, cette course a un peu changé votre vie. Hein.
Ah ben complètement. C'est même quelques années avant, la première course en solitaire que je fais, qui était une transat sur des petits bateaux, la mini transat 650 comme on veut, qui était ma première course. Et là, j'ai découvert que finalement, j'aimais bien aller vite. J'aimais bien m'éclater sur un bateau, toute seule, à fond la caisse, et que au fond, j'avais pas prémédité tout ça, mais voilà, j'avais mis un pied dans la porte et fallait que ça continue. Et puis, bah, comme je rêvais de tour du monde depuis que j'étais petite, je me suis dit, bah, course plus tour du monde, ça fait course autour du monde.
Voilà. Alors, un tour du monde qui a duré 139 jours et 4 heures, hein, pour être très précis. Quel souvenir vous gardez de ce tour du monde?
Alors, d'abord, j'ouvrais grand les yeux. C'est quand même la première fois que je partais aussi longtemps toute seule sur des bateaux de cette taille-là. Moi, j'avais pas navigué sur des bateaux aussi gros, de 18 mètres. La première fois que j'allais dans les mers du Sud, les premières galères aussi, j'ai dématé. Bon, là, il a fallu faire des trucs et tout. J'étais, je pense, dans un espèce d'état second parce que tout était tellement nouveau, tellement fort, tellement intense, tellement que d'abord je me disais, ben, je me suis pas trompée. J'avais quand même raison d'aller chercher ça.
Parce qu'il y avait un doute.
On sait jamais. Vous savez, quand on part dans un truc aussi énorme que ça, on sait pas comment on va réagir. On se dit qu'on croit en soi-même, que ça va le faire. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce qu'on va pas se mettre à pleurer, appeler sa mère ? On n'en sait rien au départ. Donc à un moment donné, il faut le vivre. Et puis plus je le vivais, et plus je m'éclatais. Quoi.
Ouais. C'est ça. Et quand vous arrivez, alors vous êtes septième de la course et première femme à faire une telle course autour du monde. Vous êtes dans quel état ?
J'ai un très beau souvenir. C'est le petit matin, c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de vent, c'est comme ça des teintes un peu pastel. Je vois la côte des États-Unis, donc d'où j'étais partie, la rivière qui s'ouvre. Et je reconnais évidemment les bouées, etc. J'étais partie presque un an avant. Et là, il y a un truc qui me traverse la tête. Je me dis maintenant, le reste, c'est du bonus. Voilà. Quand j'avais 6 ans, je me suis promis que je ferais le tour du monde quand je serais grande. J'ai 34 ans, je finis mon tour du monde. Maintenant, il peut m'arriver n'importe quoi. Et maintenant, j'ai le droit de tout faire. Et maintenant, je peux continuer. J'ai essayé de faire ça, ça a marché. Je m'étais promis que je le ferais, je l'ai fait. Bah, allons-y, la vie est belle. Ouais.
Vous aviez le droit de tout faire. Et ce que vous avez choisi de faire, c'est vraiment de devenir navigatrice à part entière, à temps plein. C'est-à-dire que vous étiez enseignante. Hein. Vous enseignez où à ce moment-là ?
Bah, en fait, moi, je suis spécialisée dans la pêche, qui était mon premier métier. J'avais travaillé pour IFREMER, l'organisme de recherche. Après, j'ai fait de l'enseignement maritime. Donc, je travaillais à l'école maritime de La Rochelle. Bon, tout se passait bien, hein. c'était sympa, c'était bien comme boulot, mais voilà, il y avait ce truc qui me traînait dans la tête qui était quand même fort, qui était d'avoir une vraie vie en mer, une vraie vie de marin. Donc j'ai mis un pied devant l'autre dans la course au large, ça s'est bien passé, donc après je me suis dit maintenant ça va être 100%.
Alors vous avez continué 4 ans plus tard, puisque le Bock Challenge c'est tous les 4 ans, donc 4 ans plus tard vous repartez, ça se passe un petit peu moins bien. Là du coup, alors la première étape se passe très bien, mais la deuxième, vous vous retrouvez un 28 décembre, vous chavirez, votre bateau se retourne et vous allez devoir attendre dans cette situation un peu compliquée qu'on vienne vous chercher. Vous avez passé votre jour de l'an toute seule.
Oui, quasiment. Ouais. En fait, ils vont venir me chercher le matin du 1er janvier. Je me souviens parce qu'ils passaient en avion pour me repérer. Ils ne voulaient pas me perdre. Ils avaient peur que je coule entre les deux. Donc, ils passaient deux fois par jour. Et ils essayaient de me lancer des containers avec du matériel. Ils ne savaient pas très bien. Et dans le dernier container, il y avait un petit mot qui disait « On viendra vous chercher demain matin à 9h. Soyez prêtes. » Et puis, il y avait une canette de bière, une pomme, « Happy New Year ». C'était classe quand même, 1er janvier.
Oui, sur le coup, ça vous a amusé ou c'était un peu...
Ouais, sur le coup, ça m'a amusé parce que ça faisait déjà presque 4 jours que j'étais un peu comme ça en survie. Et puis, vous savez, l'être humain, il s'approprie tout, il se fait à tout, finalement, au bout de 2 jours, c'était comme ça. J'étais passée dans ma tête, j'étais déjà passée à autre chose, quoi. Donc j'étais prête à avoir de l'humour quoi par rapport à tout ça.
Isabelle Autissier nous emmène dans ses aventures, le temps d'un bivouac, jusqu'à 17h sur France Inter. Et nous lisons toujours avec autant d'intérêt les messages que vous nous laissez sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur la page Facebook du temps d'un bivouac. N'hésitez pas d'ailleurs à nous raconter vos aventures ou à partager avec nous vos photos de voyage sur cette page.
I got lost in the sea of your jealousy, and now there's no one here to rescue me. I'm so far from the shore, I don't know anymore what I love you for. The waves keep pulling me to where I should be. I can't set myself. Sea of my own misery. I don't remember the last time that I floated peacefully. Again, you tell me it's fate, and I fall for your bait. I carry the weight. The waves come over me, and suddenly I can't see what you're doing to me. All the things you put me through, all the things you put me through, I still can't swim.
C'était Leftover Cuties, Lost in the Sea, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Alors, on a passé l'équateur cette nuit. Bon, tout va bien à bord. Je suis levée exprès. Du champagne à Neptune et des fleurs pour Yemanja.
Isabelle Autissier, on était à la bière tout à l'heure, ça y est, on est déjà passé au champagne. Hein.
Mais c'est pour Neptune, vous avez vu, c'est pas pour moi.
Hein. Ouais. Alors, un moment de calme, hein. On était là au passage de l'équateur, ça avait l'air assez calme. Il y a des moments où on s'ennuie à bord de son bateau.
Alors, quand on est en course, on risque pas de s'ennuyer, hein, parce qu'il y a quand même tout le temps du boulot. Et puis après, le temps n'est pas le même en mer quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'en mer, on peut rester à surveiller un nuage du coin de l'œil pendant une heure et demie. À terre, les gens vous disent qu'est-ce que ça doit être embêtant. Mais non, parce qu'il y a des paysages maritimes, il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a des couleurs, il y a des choses qui se passent. Voilà. Moi, je m'ennuie jamais, en tout cas.
Mais attendez, quand on est au milieu de la mer, donc à perte de vue, qu'on n'a plus une seule côte à l'horizon, le paysage change.
Bien sûr. Bien sûr, la mer, elle n'est pas de la même couleur. Moi, si vous me mettez dans l'Alizé, près des Antilles, je sais ce que je suis censée voir. Si vous me mettez dans les mers du Sud, je sais que la couleur de l'eau est pareille, la forme est pas pareille, la forme des vagues, les nuages, la température, bien sûr, l'odeur de la mer n'est pas la même. Il y a plein de choses qui changent.
Ouais, qu'est-ce qui change dans l'odeur de la mer?
Je ne sais pas, par exemple, dans les Antilles, c'est une mer chaude, donc il y a comment dire, une odeur un peu d'évaporation, une odeur de, ça fait sortir l'odeur d'iode et de sel par cette évaporation, cet air chaud. C'est pas du tout la même odeur que dans les mers du Sud où c'est un côté qui est presque plus minéral. Enfin non, ça sent pas pareil.
Alors on va essayer de se faire justement une idée un petit peu plus précise de ce à quoi ressemble la vie à bord d'un bateau lorsque l'on participe à une course en solitaire comme le Vendée Globe. Ça a d'ailleurs été montré au cinéma, Jérémy Querenet, en l'occurrence avec un film intitulé En solitaire avec François Cluzet.
François ! C'est la merde, j'ai tapé un truc.
Il y a de la casse?
Ouais. Le safran, peut-être la dérive.
Oh merde.
Est-ce que Franck est là?
Non, il dort encore là.
Il dort, réveille-le.
En solitaire porte finalement assez mal son nom. Le film nous amène à bord du bateau d'un certain Yann Kermadec qui participe donc pour la première fois au Vendée Globe, cette fameuse course autour du monde en solitaire. Seulement voilà, le monocoque prend rapidement des airs de taxi puisqu'on y embarque une navigatrice en déroute et surtout un jeune clandestin. Alors autant vous le dire, hein, ce n'est pas la partie la plus originale ni la plus dépaysante du film qui par contre nous dépeint de façon assez crédible le quotidien des navigateurs.
Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Comment t'es monté? Qu'est-ce que tu fous là? Oh!
Tourner un film sur un bateau n'est sûrement pas une chose facile, hein. C'est petit, ça bouge tout le temps, on risque de se prendre les pieds dans le cordage et de faire couler une caméra. Christophe Offenstein, dont c'est le premier film, a pourtant fait ce choix. Il a commencé par se procurer un vrai voilier qui avait vraiment fait le Vendée Globe et les scènes ont vraiment été tournées en mer. La scène finale d'arrivée au Sable d'Olonne a même été filmée lors d'un vrai départ de la course en 2012.
Oui,
c'est quoi cette route là? T'as une merde?
Ah non, tout va bien.
Tu vas où là?
Mais Franck, t'inquiète, je sais ce que je fais.
T'es sûr?
Mais oui!
Il sait ce qu'il fait là. Il va direct sur la plage au Brésil.
Pour tous ceux qui, comme moi, ne connaissent les courses en solitaire qu'à travers les interviews des navigateurs au JT, vous savez, en résolution 16 pixels, eh bien le film en solitaire apporte un éclairage plus complet et permet par exemple de constater l'inconfort de vos bateaux. Au mieux, ça ressemble à une navette spatiale, au pire à un cockpit de Formule 1. Ce n'est que des câbles, des écrans tactiles et des bidons en plastique en guise d'armoire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une habitude de navigateur, mais François Cluzet ne range jamais sa chambre. Et quand il va se coucher pour une bonne nuit de 20 minutes... Eh bien, elle s'allonge comme ça, tout habillé, tout mouillé et tout sale.
Allô?
Allô?
Ouais, tout bim!
Allô?
Ouais!
Salut Yann! Ça va?
Pas trop, non! Me sens faible!
Ouais?
J'ai mal à la tête! J'ai des étourdissements!
Tu vas sortir le stéthoscope numérique!
Ouais! J'y suis!
Tu vois?
Ouais!
Appuie la membrane de l'appareil sur ta poitrine!
En montant à bord du bateau avec François Cluzet, je pensais que je pourrais profiter du bruit de la mer, du vent dans les voiles ou du silence. Grave erreur, à bord c'est un vrai standard téléphonique. Le personnage est tout le temps en communication avec son chef de course, son ingénieur, son médecin, sa fille, sa femme, à tel point que quand il est en visiophone avec ses proches, on se croirait presque dans une publicité pour une tablette tactile. Du coup, eh bien, notre marin solitaire a le droit en direct aux essayages de la dernière robe de madame, à l'arrivée du bulletin de sa fille, au repas de Noël. On se téléphone même quand on n'a rien à se dire.
Allô ?
Ouais !
Ah bah quand même !
Ouais, mais écoute, tout va bien, t'inquiète pas. J'ai la météo avec moi, alors j'en profite, quoi, j'ai pas une seconde.
Non, mais, je sais, là, c'est super, tu remontes comme un malade au classement, mais c'est juste, tu prends 3 secondes et tu me donnes des nouvelles, quoi.
Ouais, je suis désolé, écoute, je sors pas depuis 2 jours.
Bon, ah oui, bah justement, fais gaffe.
Embrasse Lélé, hein.
Ouais, je t'embrasse.
Finalement, le film en solitaire parle quand même de solitude, mais d'une solitude contrariée. Notre navigateur fictif a du mal à accepter son passager clandestin et ne semble pas ravi d'être toujours au téléphone. Tout cela le sort de sa course. Sa solitude est un choix, de l'égoïsme même sûrement, et il a besoin pour se concentrer de ne penser qu'à lui, qu'à son bateau. L'effort, comme la douleur d'ailleurs, se vit toujours seul. En ce sens, le navigateur n'est pas très différent des autres sportifs, sauf que son effort dure un peu plus longtemps qu'un 100 mètres ou qu'une étape du Tour de France.
Non. Non, tu rentres, je veux pas te voir sur le pont, c'est dangereux. Allez, hop.
Merci Jérémy Querené. Alors Isabelle Autissier vous a écouté avec attention. Elle a souvent souri déjà sur l'inconfort des bateaux. Vous confirmez ?
C'est le bazar, c'est pas confortable. C'est des lessiveuses qui tournent à pleine vitesse, quoi. Non, bravo, hein, parce que je partage tout à fait ce sentiment. Je pense que les gens qui n'ont jamais pratiqué ce genre de sport, ils voient bien à travers la performance de Cluzet ce que ça peut être, quoi, d'être complètement monomaniaque, de s'en foutre du reste du monde, de la vie, de voilà, c'est la course, la course, la course, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Et je partage aussi l'impression que il lui arrive quand même beaucoup de choses à ce pauvre garçon, hein. Oui, c'est quand même terrible. Alors je comprends que pour faire un film, il faut des histoires, mais heureusement que nous, il nous en arrive pas autant dans ce genre-là.
Il y avait des éléments aussi intéressants, cette idée de standard téléphonique. C'est vrai qu'on vous imagine coupé du monde, seul. Puis en fait, le téléphone sonne tout le temps entre les journalistes, la famille, le directeur
alors,
de course.
Alors moi, j'ai un principe, c'est que chez moi, le téléphone, il est éteint. Ah oui. C'est moi qui décide de l'allumer. C'est-à-dire que je prends rendez-vous avec quelqu'un en disant « Tu veux me parler ? Ok, tu m'appelleras ou moi, je t'appellerai à tel moment. » Parce que je peux pas supporter, je peux pas imaginer qu'un téléphone sonne dans un bateau. Maintenant, je peux comprendre que certains coureurs en aient besoin. Hein. Mmh.
La solitude, ça s'apprend ?
Non, ça se vit, c'est un super truc, essayez, vous verrez, c'est génial. Ouais. Non, mais je pense que tout le monde devrait faire ça un peu, quoi. Allez dans un endroit qui vous plaît, dans une activité qui vous plaît, et faites juste ça une semaine, allez, rien qu'une semaine. C'est quand même une belle rencontre. C'est quand même un moment où vous arrêtez de vous prendre le chou, vous lâchez prise un peu, et puis on se réinvestit soi-même. Donc ça fait du bien, quoi. Nous, on a cette chance qu'en mer, c'est des bateaux géniaux, c'est des mers géniales, on adore ça. Et puis ça dure 1 mois, 2 mois, des fois 3 mois dans le Vendée Globe. Donc, c'est des beaux moments, ça apprend plein de choses.
Oui. Et parce que non seulement on est seul, mais on est aussi enfermé. C'est-à-dire que même si on traverse de très grands espaces, c'est quand même relativement étroit l'endroit dans lequel on vit.
J'ai fait des conférences dans les prisons pour femmes. Ouais. Et les filles, elles me disaient ça. Elles me disaient, mais vous êtes comme nous en prison. Et j'osais pas leur dire, mais surtout pas, quoi. D'abord, moi, je choisis. Moi, je suis là où je veux être. Et non seulement je suis où je veux être, mais ça fait 2 ans que je galère comme une malade pour y être. Donc, je suis bien là. D'accord, le bateau, il fait 18 mètres sur 6, mais j'ai le monde entier sous la main, quoi. J'ai la ligne d'horizon 360 degrés, donc j'ai une espèce de, au contraire, de plénitude par rapport à tout ça. Je suis pas du tout enfermée, en fait.
Et l'éloignement, c'est-à-dire que vous êtes, selon l'endroit où vous êtes plus ou moins à portée de secours ou à portée de côte. Il y a des endroits, notamment quand vous êtes dans l'hémisphère sud, des endroits où vous êtes vraiment loin de tout et vous ne pouvez compter que sur vous-même.
Ça, c'est la vraie différence. En fait, la solitude, c'est pas la solitude, c'est l'éloignement. Le fait qu'à un moment donné, il faut 15 jours de bateau pour venir vous chercher, quoi. Donc vous êtes à 15 jours du premier clampin venu. Ouais. Et ça change les choses. Tout d'un coup, on voit bien qu'on navigue plus pareil. On est beaucoup plus conservateur, si je puis dire. On fait beaucoup plus attention parce qu'on sait que tout repose uniquement sur vous, quoi.
Donc, prend moins de risques. C'est-à-dire que dans certaines situations, en fait, vous prenez des risques parce que vous savez qu'il y aura un filet de sécurité.
Ouais, parce que je sais, quand je suis dans l'Atlantique, je sais que les côtes sont pas si loin que ça. L'Atlantique, c'est un petit océan, qu'il y a un peu des bateaux à traîner, que c'est pas du tout la même chose que d'être au milieu du Pacifique Sud, par 55 ou 60 degrés sud, où là, on est vraiment loin. Et paradoxalement, je trouve que cet éloignement, il vous redonne quelque chose de vraiment humain, quoi. Tout d'un coup, on est loin, et tout d'un coup, les autres, on en a tellement besoin. On s'en sent tellement proche. Plus on est loin d'eux, plus c'est difficile, quoi. Donc c'est assez paradoxal.
Et quelle place prennent les animaux de la mer qui parfois vous suivent, hein, dans votre sillage?
Oui, bah c'est assez fantastique. Dans le sud, évidemment, il y a les albatros qui sont fabuleux, mais il y en a plein d'autres. Il y a les pétrels, il y a tout un tas d'oiseaux.
Alors il y a justement l'albatros. Quand vous avez préparé cette émission avec Hugo Struna, vous lui avez parlé d'un albatros bien particulier. Il a passé une demi-journée à essayer de rechercher le chant de cet albatros pour vous faire plaisir. Alors on va écouter
Albatros.
En espérant que c'est le bon.
Alors, l'albatros fuligineux, allez voir sur internet une photo d'un albatros fuligineux, c'est un oiseau sublime, quoi. Magnifique.
Oui.
Donc c'est vrai, il y a des baleines, il y a des dauphins, dans les mers chaudes, il y a des poissons volants. Donc il y a tout un monde, et c'est sympa parce que tout d'un coup, on est là, on dérange personne, hein, on passe avec son bateau. Les bêtes, elles vous voient, elles vous voient pas, mais elles vous identifient pas comme quelque chose de dangereux, donc elles changent pas leur petite vie. Et tout d'un coup, on a une espèce de connivence avec cette nature qu'on a nulle part ailleurs. Parce que partout ailleurs, les animaux, ils ont peur de l'homme. Ils savent que l'homme est dangereux. Vous vous baladez au Groenland, il y a un phoque à 500 mètres, le phoque, il va plonger, il va pas rester, parce qu'il sait que l'homme, il a un fusil. Donc, alors que là-bas, les bestioles... Elles vont jouer avec les courants d'air du bateau. Donc on prend une autre place dans la nature tout d'un coup. Ouais.
C'est ce qui vous a donné envie aussi d'être plus militante par rapport à la protection de l'environnement. Vous êtes depuis 2009 présidente de la branche WWF France.
Oui, il y a eu ça. Il y a aussi, je pense que quand on est en mer, on raisonne pas pareil. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre ce qui vous vient. Ce que la nature vous propose, la force des vagues, la direction du vent, tout ça, vous n'êtes pas maître du truc. Donc vous prenez ce que la nature vous donne, et avec ça, vous essayez de fabriquer un truc qui vous amène là où vous voulez. Et cette démarche-là, elle est beaucoup plus intéressante à mon avis que d'essayer de faire le contraire, c'est-à-dire d'essayer de forcer la nature pour essayer de lui imposer des trucs qui nous vont à nous, parce qu'on a déjà avant décidé ce qu'on voulait faire. Parce que tout simplement, ça marche mieux. Et donc quand on revient à terre, on se dit... C'est marrant parce que quand même, je les vois faire à terre, il y a un truc qui va pas, quoi. Ça va finir dans le mur, leur truc, parce que ça peut pas marcher. Donc voilà, donc il y a cette espèce de sentiment. Puis oui, cette beauté, cette plénitude de la nature, on se dit quand même, ça vaut le coup de que ça continue à exister, tout ça, quoi. Donc voilà.
Quand vous traversez la mer, est-ce que vous mettez de la musique à bord ou est-ce que vous vous laissez uniquement bercer par le son de la mer?
Alors il y a les deux, mais j'aime bien écouter de la musique parce que d'abord la musique c'est aussi les hommes, c'est aussi c'est sympa. Mais c'est drôle parce que d'abord je me suis rendu compte que j'écoutais très souvent de la voix, donc soit de la chanson française ou de l'opéra ou je sais pas quoi, mais de la voix humaine. J'avais besoin que quelqu'un me parle en fait. Et puis il y a un peu des musiques pour chaque type de mer. Il y a des musiques pour les calmes plats, il y a des musiques au contraire quand ça bastonne et qu'il y a les grosses vagues et tout ça, il y a des sambas quand on est dans la lisée, on arrive à trouver des connivences.
Eh bien nous, on écoute François and the Atlas Mountains qui chante Revue. Et dans un instant, nous entrerons dans une mer agitée, avis de tempête sur le temps d'un bivouac.
Je l'ai revue au coin de la rue. Il voulait me faire croire au hasard. J'avais toujours voulu le revoir. Et il était soudain réapparu. Je l'ai emmené chez moi pour qu'il revoie. Qu'il avait fait de nous. Ceux des gens qu'on n'avait pas revus. Le soir venant, il est retourné à la rue. lui, sa bouche la même et ses yeux pointus, sa voix, il n'avait rien perdu, c'était le même que j'avais aimé, que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Le jour d'après, il est revenu, les poings serrés et la bouche cousue. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassé.
C'était Revue de François and the Atlas Mountains sur France Inter.
Je pense qu'il y aura du vent dans deux jours. Peut-être même beaucoup de vent. Pour que ça déboule.
Le temps d'un bivouac sur France Inter, nous sommes en compagnie de la navigatrice Isabelle Autissier et nous entrons dans une zone particulièrement dangereuse. Dans quel état d'esprit on est, Isabelle, lorsque on sent que c'est un peu le calme avant la tempête, que la mer sera bientôt démontée, que la tempête guette?
Bah, je veux dire, on n'emmène pas large, quoi. C'est presque le pire moment, c'est presque pire que quand il y a vraiment du gros vent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que ça, voilà. Je le dis d'ailleurs, hein, mais je le dis sans vouloir le dire comme ça. Mais en fait, je suis pas fière à ce moment-là, quoi. Parce que je sais. Après, on ne sait pas où ça s'arrête, quoi.
Alors, en 96-97, lors d'un Vendée Globe auquel vous participiez, Jerry Roof, un autre participant, navigateur canadien, chavire, son bateau à l'envers, dérive à la vitesse de 15 nœuds, il est introuvable, hein, perdu en mer, votre bateau est le plus proche dans la course, donc vous déroutez, vous vous apprêtez à partir à sa recherche, et à la radio, dans les journaux, on donne de vos nouvelles, on lit les fax que vous envoyez.
Fax d'Isabelle Autissier, reçu à Paris ce midi. C'est la guerre, mer énorme, Jerry introuvable, je crains chavirage pour Jerry. Jerry Roof, le Canadien, deuxième de la course, mais depuis hier soir, sa valise Argos ne répond plus. Lui qui traversait une zone délicate, avec une mer démontée et un vent qui souffle à plus de 100 km/h. Isabelle Autissier navigue à moins de 60 km de Jerry Roof, et dès que la météo le permettra, elle se mettra à la recherche du Canadien.
Vous êtes allée à sa recherche, Isabelle Autissier. Vous dites que c'est un des rares moments où vous n'aviez plus envie d'être en mer.
C'est le seul, en fait. Parce que, effectivement, je vais passer deux jours à le chercher. Je fais demi-tour. Moi, j'ai enregistré 87 nœuds pour les marins. Ça fait beaucoup, beaucoup de vent. Et donc, oui, j'ai les pires craintes. Dès le début, je le dis d'ailleurs, je pense qu'il s'est mis à l'envers. J'ai peur qu'il soit mis à l'envers. Parce que moi, ce jour-là, j'ai chaviré six fois. Et six fois, par miracle, le bateau s'est redressé. Et donc, je me dis, c'est ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est vraiment dur parce que on cherche l'aiguille dans la botte de foin. Enfin, ouais. Le bateau, plus le temps passe, plus le bateau dérive, on sait où. Il n'y a pas de visibilité, il fait mauvais, il y a encore du vent fort. Moi, je vois à 300 mètres, donc quelle chance j'ai enfin bon, même si je le fais, c'est un peu désespérant, c'est même tout à fait désespérant. Et c'est vrai que là, on se dit, mais moi je fais ça pour le bonheur, quoi. Et puis là, c'est quand même. Ouais. C'est pas bien.
Vous sillonnez une surface aussi grande que la Belgique avec votre bateau et vous cherchez un homme à la mer.
Voilà. Je cherche un bateau à l'envers, c'est-à-dire un petit bout de quelque chose, de quille noire sur une mer grise. Donc, vous voyez le genre de chance qu'on a de le repérer. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est dur.
Vous avez cherché combien de temps?
Deux jours.
Deux jours, et vous aurez du mal à arrêter de chercher. On vous demandera, on vous dira, ça n'est plus la peine de chercher. Vous aurez du mal à vous décider à quitter la zone.
Ouais, moi je travaille avec le CROSSETEL, qui est l'organisme français de secours en mer, qui me suit, qui essaie de me donner des directives. À un moment donné, ils me disent, il y a une autre tempête qui arrive, donc faut pas rester là. Mais en même temps, moi je me dis, si j'arrête, plus personne va le chercher, quoi. Donc ça dure comme ça 2-3 heures. À la fin, les types s'énervent un peu, ils me disent, foutez le camp, parce que c'est pas la peine d'avoir deux problèmes sur le dos. Donc voilà, donc au moment où je fais demi-tour, je me dis voilà, maintenant voilà, c'est fini quoi.
Jerry Roof, navigateur canadien, a donc disparu en mer en janvier 1997 lors de ce Vendée Globe. Il avait 42 ans. Malgré cette épreuve, vous repartez en 1999. Ça vous a pas fait réfléchir de...
Alors ça m'a beaucoup fait réfléchir, d'autant plus que 2 ans après, on a retrouvé son bateau à l'envers, qui avait continué à flotter, mais qui était bien à l'envers. Et donc moi, du coup, avec mon équipe, on a réfléchi à tout ce qu'il faudrait qu'on fasse si j'étais coincée dans le bateau à l'envers. Et on a inventé un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'était un peu prémonitoire parce qu'effectivement, dans cette course, je me suis à mon tour mis à l'envers.
Oui.
Et tout ce qu'on avait inventé a fonctionné. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Oui. Cette fois-ci, c'était vous, la naufragée solitaire. Et la personne, l'autre concurrent de la course qui devait venir à votre secours, cette fois-ci, navigateur italien Giovanni Soldini.
Je viens de recevoir un message. Isabelle s'est retournée. Je suis à plusieurs centaines de milles, coincé dans une dépression. Ah, misère de misère. Avec Kerselin, ils sont descendus très très sud et forcément, ils sont très mal positionnés.
Voilà, donc il vous a retrouvé, Giovanni Soldini. Donc cette fois-ci, l'histoire s'est bien terminée. Heureusement
ben voilà.
Pour vous, heureusement pour nous. Et alors, vous avez ensuite, alors les règles de la course, vous n'étiez plus du tout dedans puisque vous avez navigué ensemble pendant 15 jours.
Ben, on pouvait difficilement faire autrement, voilà. Ou alors il fallait qu'il me repose de là où il m'avait trouvé, puisqu'il m'a récupéré au milieu du Pacifique Sud. Donc ouais. On avait vaguement envisagé une dépose au Cap Horn, mais c'était dangereux pour lui, ça veut dire s'approcher du Cap Horn et tout, quand il fait mauvais. Donc, bah, bon an, mal an. En fait, c'est drôle parce que on n'était plus du tout dans la course. Bon, moi, évidemment. Mais même lui, un an avant, il avait perdu son meilleur copain en mer. Et là, donc, il avait perdu une vie. Là, tout d'un coup, il sauvait une vie. Pour lui, c'était un truc incroyable. Et pour moi aussi, bien sûr. Et en fait, on a passé 15 jours à faire de la philosophie, à boire des coups. Il avait un petit peu de vin rouge. On a même arrêté un pêcheur pour lui demander du vin rouge parce qu'on n'en avait plus. Bah, on était dans un espèce d'état second où c'était la vie, quoi. Voilà. Et c'était une espèce de parenthèse étrange, mais qui était très pleine d'humanité.
Ouais. Et c'est un très bon souvenir, finalement. Pas le fait d'avoir chaviré, mais ce duo de course en solitaire qui se termine en duo.
Complètement improbable, évidemment. Mais voilà, la course, c'est ça aussi. Enfin, l'aventure maritime, en tout cas, c'est ça aussi.
Alors c'est quand même après cette histoire que vous allez décider d'arrêter les courses en solitaire pour de bon.
Alors je l'ai décidé avant en fait. Ah avant oui. De prendre le départ de ce dernier tour du monde que je vais faire, qui est le quatrième, je me dis j'en fais un petit dernier pour la route. Et voilà, après j'aurai fait 4 tours du monde, il sera temps de passer à autre chose. Parce que je peux en faire 5, 6, 10, voilà. Donc j'ai le sentiment que d'abord j'ai aussi, après avoir navigué tout le temps très vite, j'ai un peu envie de naviguer lentement, de savourer, de prendre du temps, des petits mouillages, des coins. Donc je me dis voilà, après je vais inventer autre chose.
Comment ont réagi vos proches à cette annonce ?
Ils ont dit ouf.
Ouais, j'imagine. À leur place, j'aurais dit pareil. Alors, on a surtout parlé de vos traversées en solitaire, mais vous avez aussi fait des traversées en équipage, naviguer seul ou en équipe. Je vous propose d'écouter un célèbre navigateur à ce sujet, Éric Tabarly.
En solitaire, la solitude n'est pas un problème. Au contraire, même moralement, je trouve que c'est très reposant d'être tout seul. Il n'y a pas de souci à se faire. Alors que quand on est avec tout un équipage, il faut au fond penser pour tout le monde. On a toujours peur que quelqu'un se blesse, que quelqu'un passe par-dessus bord. Et tout ça, c'est, pour le skipper, ce sont des soucis constants. Tandis que quand on est tout seul, là, on se fait vraiment aucun souci.
Ne vous fatiguez pas, on revient tout de suite.
Éric Tabarly, décédé le 13 juin 1998 à la suite d'une chute en mer d'Irlande. Et il était à ce moment-là en équipage, il n'était pas seul à bord de son bateau. Vous êtes d'accord avec lui ? Je vous voyais sourire.
Oui, alors pas tout à fait, parce que quand même en solo, c'est quand même un peu dur. Quoi. Parce qu'on n'a qu'une tête, on n'a que 2 bras. Quoi. Des fois, on aimerait bien quelqu'un d'autre pour penser avec vous, pour faire la manœuvre avec vous. Donc oui, le solitaire, c'est quand même exigeant. C'est quand même... Maintenant, c'est vrai que l'équipage, quand on est skipper du bateau... Bah, c'est à vous de veiller à tout, voilà, c'est un peu vos petits, vos enfants, hein, c'est un peu les états d'âme des uns et des autres, c'est un peu les engueulades, c'est un peu, faut maintenir le niveau de pression, d'enthousiasme. Quand on gagne, tout va bien, hein. Ouais. Mais quand on est derrière, c'est pas toujours facile.
Ouais. Alors vous avez pratiqué par exemple cette course en 1994 où vous avez pulvérisé le record de la course New York-San Francisco par le Cap Horn. Là, c'était en équipage et apparemment, ça s'est bien passé.
Ah, c'était génial. Là, c'était un équipage de rêve parce qu'en même temps, c'est merveilleux quand on a une bande de potes avec qui tout est fluide, avec qui on est d'accord, avec qui on a une énergie, même quand on a des ennuis, je veux dire, presque ça rigole, quoi, hein, parce que tac, 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 on trouve les solutions, moi je fais ça, tu fais ça, etc. Ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment du pur bonheur, et ce New York San Francisco-là, ça a été du pur bonheur.
Comment on choisit son équipe ?
Bah, d'abord, on prend des gens qui ont bon caractère, justement. Ouais. Ça, c'est important. Forcément, des bons marins, mais bon, ça, heureusement, en France, il y en a beaucoup. Et puis après, on va essayer d'amener au bateau tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire, on va avoir quelqu'un qui va être un peu plus technicien des voiles, un autre un peu plus technicien d'informatique, un autre un peu plus ci, un peu plus ça, de manière à ce que le bateau en mer ait tous les talents à son service. Mais la première des conditions, c'est des bons mecs.
Ouais.
C'est des gens qui aient de l'enthousiasme, qui le sourire, ouais. Qui savent vivre avec les autres. Ouais. Ça, c'est primordial, quoi.
Vous dites des bons mecs. Alors, il n'y a pas de bonne coéquipière
à bord d'un
bateau.
Si, bien sûr, il y a des bonnes nanas.
Ben oui.
Mais c'est vrai que statistiquement, il y en a beaucoup moins. Hein. Qu'est-ce qu'on est 1% dans la course au large, à ce niveau-là? Donc, quand vous faites un équipage au hasard, bah, vous avez 1% de chance d'avoir des filles. Donc, moi, j'ai eu des filles à bord qui étaient super, hein, qui étaient vraiment avec qui ça s'est très bien passé. Mais quand même, statistiquement, il y a quand même plus de garçons, quoi.
Ça a été plutôt une force ou une difficulté, le fait d'être une femme dans ce monde d'hommes?
Finalement, je dirais que bon, d'abord ça s'est bien passé. Moi, j'ai jamais personne m'a marché dessus. Je suis peut-être pas du genre à me laisser non plus trop faire, ouais. mais je crois que j'étais vraiment respectée par tout le monde et je les en remercie. Et puis après, c'est ça a un petit côté d'humour, quoi. C'était parce qu'il faut le prendre comme ça. Je veux dire, quand j'ai gagné en Afrique du Sud, je me souviens, ils étaient un petit poil vexés, les garçons, quoi. Mais bon, on pouvait en rigoler, on pouvait s'amuser avec ça. Je me souviens, ils étaient 7, donc voilà, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, quoi. Puis Blanche-Neige, elle était arrivée devant, donc bon, quand on le prend avec humour, c'est super.
Là, on est sur Smith Island, donc dans les Shetland du Sud, et on est sur un versant totalement inexploré. C'est assez fabuleux parce que là, c'est le côté nord de l'île. Il faut donc savoir que le point culminant s'appelle le mont Foster, qui donc est à plus de 2000 mètres au-dessus des flots. Et en fait, il a été gravi a priori qu'une seule fois, et par son versant sud, donc qui est opposé à celui-ci. Et là, on est sur des versants beaucoup plus raides, avec des systèmes d'éperons rocheux, avec des grands séracs. Et on va essayer de trouver un petit chemin sympa qui va nous mener là-haut à partir de là, quoi.
On a la tête à l'envers ici, on est au pôle sud.
Au pôle sud, en train de gravir des montagnes assez vierges pour la plupart, nous n'avons pas fait fausse route. Nous sommes toujours avec Isabelle Autissier. Cet extrait sonore est plus récent, il date de 2010. Vous étiez parti avec une équipe de marins et d'alpinistes dans ces eaux froides qui bordent le continent antarctique.
Alors, très belle expédition, parce qu'au fond, marins et montagnards, on a tout à se dire, on a tout en commun.
Hein. Ah oui.
On voit la vie pareil, on voit la nature pareil, l'engagement pareil. Et après, c'est la technique. Hein. Bon, il est quand même question de corde un peu partout, hein.
Oui,
d'équipe, d'équipage, de cordée, voilà. Et donc, on a fait ce grand voyage de 3 mois, Antarctique, et après vers une île qui est un peu une île à la Tintin, qui s'appelle l'île Pierre Premier. On était le 3e bateau dans l'histoire à aller, donc tout ça a été un peu... une très belle expé, ouais. Très, très belle ambiance entre les gens.
C'est une des dernières terres émergées, découvertes par l'homme, je crois...
Bah oui, parce que l'Antarctique, quand même, on le découvre qu'au 19e siècle, hein, très très tard. Puis alors cette île-là,
encore plus.
Il y a Charcot qui va la croiser en 1903, et qui va même pas débarquer. Donc c'est marrant. On est, les cartes sont fausses, faut réinventer tout, on ne sait pas où on est. Donc ça a un petit côté. Bon, il y a de la glace partout, faut quand même faire attention. Mais voilà, c'est ce qu'on cherchait les uns et les autres. Donc c'était très équilibré parce qu'il y en avait pour les marins, il y en avait pour les alpinistes, et en même temps on se retrouvait le soir ou au bout de 3-4 jours dans le carré du bateau, et là c'était des beaux échanges.
Mmh. Et décrivez-nous cette île Pierre Premier sur laquelle vous êtes allé et où très peu de bateaux sont allés.
Alors c'est une île qui se trouve, et la péninsule antarctique, cette espèce de grande virgule là qui est en face du Cap Horn, hein, et dans l'ouest, à 1000 km à peu près, il y a une île qui fait à peu près 10 km de long sur 3 de large, qui est une montagne de glace avec simplement quelques parois rocheuses qui sont, comme ces volcaniques, qui sont noires, veinées de rouge. C'est gavé de glace, gavé de baleines, d'oiseaux. Et c'est ce truc qui est posé au milieu de rien. On est arrivé par un temps de brume, tout d'un coup, la brume s'est un peu ouverte. On a vu cette espèce de montagne devant nous. On n'est plus sur la Terre, quoi. Enfin, on est quand même vraiment dans des endroits. Puis encore une fois, ça correspondait pas du tout à la carte. C'était, ouais. Voilà, on savait pas où on était, quoi. Donc on s'est fait aussi les petits les petits frissons que se faisaient nos ancêtres, évidemment, ouais, quand ils inventaient les cartes.
Et vous êtes essayé à l'alpinisme ou vous avez laissé vos collègues alpinistes et vous avez attendu dans le bateau ?
Alors, d'abord, on n'attend pas dans le bateau, on fait beaucoup de choses dans le bateau, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mouiller au milieu d'une baie où il y a plein de glace, mais il faut passer son temps à déménager parce que la glace bouge et que quand on n'arrive pas à la repousser, il faut lever l'ancre, aller de l'autre côté, puis hop, la glace retourne, et bon, bref, on est bien occupé. Alors, de temps en temps, on a joué un peu, mais moi, je suis incapable de faire ce qu'ils font. Eux, c'est des alpinistes de très haut vol. Donc, de temps en temps, quand il a fait beau, qu'on a pu laisser le bateau 2 heures, ils m'ont collé un casque sur le crâne et puis un piolet dans chaque main, et puis en avant, sur une falaise qui fait 20 mètres de haut. Mais c'était pour rire, c'était pour échanger. Et de même, eux, ils ont. Alors, c'était un petit peu plus facile pour eux. Ils ont beaucoup navigué avec nous. Donc, on faisait des quarts avec un marin, un alpiniste. Donc, on leur apprenait les manœuvres, on les faisait barrer et tout, c'était très sympa.
Vous êtes allé un peu avant du côté du pôle Nord, en fait, les glaces vous attirent.
Ouais, les glaces, j'aime pas le chaud, là je suis un peu malheureuse par les temps qui courent, il fait un peu chaud pour moi ici. J'aime bien ces ambiances quand même, il n'y a pas grand monde, c'est très sauvage encore, c'est assez vierge, même si on ne sait plus s'il y a des endroits vierges sur la planète, mais enfin, ça y ressemble. Il y a cette proximité avec les animaux, avec la nature, qui ne connaissent pas l'homme là-bas. Donc, et puis on est quand même encore un peu dans l'inconnu, parce que c'est souvent des coins qui n'ont pas été trop cartographiés, trop répertoriés. Donc, c'est des belles formes d'aventure, j'aime bien.
Isabelle Autissier, peut-être un dernier mot sur vos engagements. Je citais dans cette émission votre travail pour l'association WWF. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans cette association ?
Ah ben, on peut faire des chèques, tiens, par exemple. Écoutez, allons-y. Non, mais je pense que la mobilisation de tout le monde, elle est indispensable. On sait bien qu'il faut... Bon, voilà, tout le monde le dit, on va dans le mur, faut qu'on arrête le climat, la biodiversité, tout ça va pas bien. Prenons les choses dans le bon sens, faisons, c'est-à-dire réunissons-nous. WWF est une des associations, il y en a d'autres si vous en voulez d'autres. Faisons à travers notre boulot, à travers nos engagements citoyens et militants, notre bulletin de vote, tout ce qu'on veut. Inventons le monde de demain parce qu'on en a sacrément besoin. On en a besoin pour demain, on en a même besoin pour aujourd'hui parce que je trouve que c'est un vrai enthousiasme, c'est un vrai élan de se dire qu'on se bouge et qu'on invente demain, quoi.
Oui, et votre enthousiasme, votre élan, vous le partagez dans ce petit livre paru en 2013, La Terre pour Horizon. C'est un entretien dans lequel vous livrez vos goûts, votre tempérament, vos convictions. C'est édité par les presses d'Île-de-France. Et puis, je signale aussi vos deux romans, L'Amant de Patagonie et Seule la mer s'en souviendra, publié chez Grasset. Merci Isabelle Autissier et puis bon retour à La Rochelle. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.
Restez avec nous dans un instant. Nancy Moots, nos amis de la série Nus et culottés de France 5, nous emmènent en Corse.
Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, mas você não vem.
C'était Véjo Passard de Dom la Néna sur France Inter dans le temps d'un bivouac et la programmation musicale est signée Muriel Pérez.
Très cher Corse, bonjour.
Bonjour Corsica.
On est en plein hiver, au mois de janvier. Comme d'habitude, on part sans argent, sans vêtements, sans équipe technique, on a juste un couteau et nos petites caméras.
Wouh ! Première étape, il va falloir se faire des petits vêtements pour aller rencontrer les gens, espérer trouver un endroit pour dormir ce soir.
Yes. Ça va pas nous tenir beaucoup plus chaud, mais au moins on est présentable. Le froid corse est saisissant.
Oh, attendez, on va aller voir si on a un t-shirt.
Ah, si vous avez quelque chose, c'est adorable.
Mais vous êtes nus.
Non, en tout cas, on veut choquer personne. C'est vraiment une manière de voyager en partant de rien.
Bon, attendez, on va voir si on a un
t-shirt. Ok, ça marche. Bon, reviens.
Bonjour Nancy Moots.
Et bonjour.
De retour, comme tous les mardis dans le temps d'un bivouac cet été, la nouvelle saison de votre série Nu et culotté, rebaptisée Confinu et culotté, a débuté sur France 5 avec un nouvel épisode tous les mardis soirs. Et pour ce deuxième épisode, vous nous emmenez sur l'île de beauté. Comment vous avez choisi les destinations de ces quatre nouveaux épisodes?
Ah, c'est une très bonne question. À la base, on n'était pas du tout censé partir là-bas. On devait partir dans le Jura.
Ah ouais.
Et pour cet épisode en tout cas, et en fait la météo, la neige et tout ça ont fait que c'était pas possible. Donc au dernier moment, mais genre quand je dis au dernier moment, c'était à deux heures de se mettre tout nu.
Ouais.
On a dit on part pas, on prend un avion et on va en Corse.
Et c'était le seul endroit de l'Hexagone et Corse où il y avait du beau temps, ce serait mentir, mais en tout cas il pleuvait pas.
Vous avez décidé deux heures avant, vraiment? Ouais. Ça se décide pas plus en amont?
Ça se décide bien en amont, mais en fait, on surveillait la météo. On était dans le Jura, on était à Pontarlier, on avait déjà une idée de où on voulait se mettre à nu. Mais les conditions météorologiques étaient vraiment pas compatibles avec le fait de se mettre tout nu, c'est une chose, mais surtout avec le matériel qu'on emporte qui est très sensible à la pluie. Mmh. Donc s'il pleut ou s'il y a du crachin, de la neige ou je ne sais quoi, ce serait trop dangereux pour le tournage, donc ça mettrait en péril le voyage aussi. Donc c'est ça qui a fait que au dernier moment, on s'est dit non, c'est pas possible, allez, direction la Corse.
Parce qu'on rappelle, Nance, la règle du jeu, vous vous mettez tout nu, parce qu'après, c'est au fil des rencontres que vous vous habillez et que vous reprenez une forme plus civilisée, on va dire.
Voilà, exactement. Dans la nature, on va s'habiller avec des éléments du végétal ou de la récup, des choses qu'on va trouver, des déchets. Et après, on espère à chaque fois trouver le bon pantalon, le pull qui va bien avec les gens qui nous hébergeront.
Et là, de Corse, vous êtes parti d'où exactement, Moots?
Eh ben, on est parti d'un tout petit village qui s'appelle Sant'Andrea di Cotone. C'est sur la côte est. Et on a entrepris de suivre le sentier qui s'appelle le Mare a Mare Nord. Donc c'est un sentier qui traverse la Corse, dans notre cas, de la côte est vers la côte ouest. Puisque l'objectif dans ce voyage était d'aller faire de la luge avec vue sur mer. Ouais. Donc pour ça, il faut prendre la hauteur pour qu'il y ait quand même de la neige. Donc on est allé vers le centre de la Corse à pied, puisque dans cette nouvelle saison, avec une toile de fond de Covid, on s'est interdit, ou en tout cas on a grandement limité l'autostop. Donc ça implique de la marche ou du vélo. Donc là, on a marché.
Vous êtes quand même un peu parfois monté en voiture.
C'est arrivé quelques fois, mais vraiment, c'est anecdotique par rapport à tous les kilomètres parcourus dans cette saison.
Ouais. Il y a eu des moments de découragement. Les Corses ont-ils été accueillants? Enfin, les Corses, et de façon générale, on imagine qu'à ce moment-là, les Français étaient quand même un peu plus frileux pour ouvrir leurs portes, vu les conditions sanitaires et le confinement.
Ben, souvent, le moment le plus décourageant pour nous, c'est 30 minutes avant de se mettre tout nu. Là, il y a un grand moment de doute. Même après 10 ans de voyage comme ça, ça nous arrive encore de pleurer. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce qu'on se met à poil? C'est pas possible, on va pas y arriver. Surtout qu'en Corse, la dernière fois qu'on y était allé, on avait eu une très mauvaise expérience. En tout cas, une expérience qui nous avait bien marqué.
Laquelle?
Avec un homme qui a sorti un couteau, en fait, disons-le tout simplement. J'ai encore l'image de Moots avec le couteau sous la gorge. Et ouais, on n'est pas passé loin du drame. Donc on avait, je pense, dans notre inconscient, même dans notre conscient, marqué un peu ce waouh. Attention, c'est pas juste des films. En fait, c'est la vie, et dans la vie, tu peux aussi tomber sur des mauvaises rencontres.
Et oui, parce que c'est vrai qu'on met en avant toutes les belles histoires qui se passent dans nos voyages, et ce sont la majorité des occasions qui nous sont données à vivre. Mais dans l'eau, on tombe aussi sur des gens alcoolisés, on tombe aussi sur des gens dangereux qui sont pas conscients de leurs gestes. Et donc c'est aussi une démarche risquée. Mmh.
Mais après, pour répondre à la question, une fois qu'on est parti sur la route, là, voilà, les portes s'ouvrent et puis c'est un espèce d'enchaînement. Alors oui, on va rencontrer des difficultés, notamment quand on a traversé à un moment donné les montagnes et qu'il y avait énormément de vent, c'est un peu perdu, on savait pas si on allait atteindre le village suivant. Mais disons qu'on est là, on est parti, on est lancé et en tout cas, il y a un endroit de nous qui ne doute plus.
Et puis avec des jolies rencontres, hein, Marcel qui vous raconte comment la langue corse et les chants ont failli se perdre et se sont de nouveau pratiqués par les nouvelles générations.
Quand j'étais jeune, il y en avait qui chantaient, mais c'était en voie de disparition, tout simplement.
Ah ouais.
Par les Corses, c'était mal vu. C'était interdit à l'école.
Ah ouais.
J'ai appris le Corse, simplement, même pas à la maison, parce que mon père était tellement respectueux de la législation qu'il ne parlait pas le Corse à la maison alors qu'il savait le parler. Moi, j'ai appris le Corse dans le village, tout simplement, parce que les vieux, ils parlaient Corse entre eux, donc on écoute et on entend.
Donc ça a failli se perdre autant par les Corses que les chants.
Ah, totalement.
Toi, t'as failli voir le déclin, finalement.
J'ai vu le déclin et voir ça, c'est...
Comme ça.
Cette fois-ci, vous les avez fait pleurer, les Corses, finalement, Moutz. C'est toujours impressionnant. Je ne sais pas combien de temps durent ces rencontres dans la réalité avant le montage, mais cette capacité que vous avez tous les deux à faire que les gens se livrent et avec une sincérité, une émotion, c'est bluffant.
Alors là, je vais parler non pas au nom de Nance et moi, mais au nom de celles et ceux qui prennent la route, parce que on a entendu des dizaines de témoignages de personnes qui ont pris la route, que ce soit pas plus tard qu'il y a 15 jours ou dans les années 70. Il y a une énergie particulière quand on est dans cet état de vulnérabilité où on est obligé de compter quand même sur les autres, même en voyageant avec de l'argent, même avec des vêtements, qui fait que on peut plus se permettre de se dire je vais faire sans les autres. On est obligé de compter sur une porte qui va s'ouvrir, un repas qui va être servi, sur peut-être une machine à laver aussi. Et donc ça nous met dans une posture dans laquelle on est à l'écoute. Et en fait, c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, c'est le fait de créer un espace d'écoute et d'attention sincère envers l'autre qui fait que les gens se livrent. Et il y a des choses merveilleuses qui se passent, comme ce soir-là.
Pour savoir si vous avez réussi votre objectif de faire de la luge, qui n'était pas l'objectif le plus difficile parmi l'histoire des objectifs de Nancy Moutz. Hein.
Non, non.
La luge sur la montagne. Enfin, il fallait quand même y aller hein, sur cette...
Et trouver une vue sur mer. Il y a quand même des petits détails qui corsent le
d'accord,
truc.
Ouais,
mais j'avoue, on a vécu plus ardu comme voyage.
Oui, c'est ça. Je ne veux pas dénigrer parce que je ne sais pas si j'aurais réussi. Mais bon. Allez, Confinu et Culotté en Corse à découvrir ce soir sur France 5 en partenariat avec Le Temps d'un Bivouac. Et Nancy Moutz, vous revenez mardi prochain pour nous présenter un nouvel épisode inédit. Ce sera où ?
Dans les Pyrénées, on va chercher à dormir dans une grotte.
Alors, à mardi prochain.
À mardi.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.